Vous écoutez On lit pour vous.
Chaleur extrême. Une découverte encourageante sur la capacité d'adaptation des aînés. Un texte de Daniel Gagnon et Thomas Deshaies, paru le 25 juin 2026 dans La Conversation. L'année 2024 a marqué la première fois où la température planétaire moyenne a dépassé le seuil de 1,5 degré Celsius fixé par l'accord de Paris. Une conséquence directe de ce réchauffement climatique est l'intensification des vagues de chaleur qui représentent déjà une menace importante pour la santé humaine. Le Québec n'échappe pas à cette réalité. D'ici 2080, Montréal pourrait connaître entre 37 et 54 journées de plus de 30 degrés Celsius par année, contre seulement 11 entre 1976 et 2005. Les personnes aînées sont considérées comme la population la plus vulnérable à la chaleur. Lors des étés européens exceptionnellement chauds de 2022, 2023 et 2024, environ 84 % des 181 446 décès attribués à la chaleur sont survenus chez des adultes âgés de 75 ans et plus. Le constat était similaire lors du dôme de chaleur de 2021 dans l'Ouest canadien. Or, le vieillissement de la population s'accélère rapidement, notamment au Québec, où une personne sur quatre aura plus de 65 ans d'ici 2031. Il est donc urgent de mieux comprendre pourquoi les personnes aînées sont plus à risque lors des périodes de forte chaleur, mais aussi de déterminer si cette vulnérabilité peut être atténuée. Pourquoi le corps dissipe-t-il moins bien la chaleur avec l'âge? Les conséquences de la chaleur sur la santé découlent principalement d'une accumulation excessive de chaleur dans l'organisme. Comparativement aux jeunes adultes, les personnes aînées présentent généralement une augmentation plus prononcée de la température corporelle interne lors d'une exposition à la chaleur. Or, cette hausse ne commence pas subitement à 65 ans, mais apparaît progressivement dès l'âge adulte. Dans nos travaux, nous observons qu'à exposition égale à la chaleur, la température corporelle interne tend à augmenter d'environ 0,1 degré Celsius par décennie de vie. Autrement dit, une personne de 90 ans pourrait atteindre une température interne de près de 0,7 degré Celsius plus élevée qu'une personne de 20 ans placée dans les mêmes conditions. Ceci explique en partie pourquoi les personnes aînées sont plus susceptibles de développer des complications cardiovasculaires ou rénales à la chaleur. Pour éviter une surchauffe, plusieurs mécanismes se mettent en place dans le corps pour perdre de la chaleur. Les vaisseaux sanguins de la peau se dilatent afin d'échanger davantage de chaleur avec l'environnement, une réponse physiologique appelée vasodilatation cutanée. Les glandes sudoripares, elles, produisent de la sueur dont l'évaporation permet de refroidir le corps. Plusieurs études montrent que ces réponses deviennent moins efficaces avec l'avancée en âge. Dès 40 ans, l'être humain transpire généralement moins, alors que la vasodilatation cutanée est réduite lors d'une exposition à la chaleur. Jusqu'à récemment, la majorité des travaux suggéraient que ces limitations provenaient surtout des organes responsables de ces réponses, notamment les vaisseaux sanguins et les glandes sudoripares. Cependant, une question demeurait largement irrésolue. Le vieillissement affecte-t-il aussi les signaux nerveux envoyés par le cerveau pour déclencher ces mécanismes de protection? En d'autres mots, le contrôle nerveux de la thermorégulation est-il lui aussi altéré avec l'âge? C'est ce que nos derniers travaux ont tenté de découvrir. Entraîner le corps à mieux tolérer les environnements chauds. Des expositions répétées à la chaleur peuvent entraîner une série d'adaptations physiologiques qui permettent au corps humain de mieux tolérer les environnements chauds. Ce phénomène, appelé acclimatation à la chaleur, est largement utilisée par les athlètes avant des compétitions disputées sous de fortes chaleurs, ainsi que par les militaires avant un déploiement dans des régions chaudes. L'acclimatation consiste généralement à s'exposer à la chaleur pendant 60 à 90 minutes par jour sur une période de 7 à 14 jours, soit par l'exercice en environnement chaud, soit par des méthodes passives comme les bains chauds ou les saunas. Les bénéfices sont multiples. La transpiration débute plus rapidement et devient plus abondante. Les vaisseaux sanguins de la peau se dilatent plus tôt. La température corporelle interne de repos diminue et le cœur travaille moins fort lors d'une exposition à la chaleur. Résultat, pour une même chaleur, l'organisme subit moins de répercussions néfastes. Une grande partie de ces adaptations survient d'ailleurs dès la première semaine. Ce phénomène est connu depuis la fin des années 1700 et semble survenir chez tout le monde. Cette stratégie pourrait être particulièrement utile au début de l'été dans les climats nordiques, alors que les premières vagues de chaleur surviennent avant que le corps ne se soit naturellement adapté aux températures élevées. Jusqu'à récemment, la communauté scientifique avait très peu de données sur la conservation de cette capacité d'adaptation chez les personnes aînées. L'âge avancé n'empêche pas le système nerveux de s'acclimater à la chaleur. Pour adresser cette question, nous avons comparé la réponse physiologique à la chaleur de 15 personnes âgées de 60 à 78 ans à celle de 16 jeunes adultes âgés de 21 à 40 ans avant et après 7 jours d'acclimatation à la chaleur réalisés dans des bains chauds quotidiens de 90 minutes à 40 degrés Celsius. Lors de ces expositions à la chaleur, nous avons mesuré les signaux nerveux responsables de la transpiration et de la dilatation des vaisseaux sanguins de la peau. Après les 7 jours d'acclimatation, ces signaux étaient activés plus rapidement, ce qui signifie que le corps déclenchait ses mécanismes de perte de chaleur alors qu'il avait accumulé moins de chaleur. Cette réponse était associée à une transpiration et à une vasodilatation cutanée plus précoce. Nous avons également observé une diminution progressive de la température corporelle interne de repos ainsi qu'une fréquence cardiaque moins élevée pendant les bains chauds et ce, en maintenant des conditions identiques tout au long de l'expérience. Contrairement à notre hypothèse de départ, ces adaptations étaient comparables chez les jeunes adultes et les personnes aînées. Ces résultats, basés sur une trentaine d'individus, suggère que le vieillissement n'altère pas nécessairement la capacité du système nerveux à s'adapter à la chaleur. Bien que cette découverte soit encourageante, d'autres questions demeurent. Il reste notamment à déterminer quelle dose minimale de chaleur, en termes d'intensité, de durée et de fréquence des expositions, est nécessaire pour induire des adaptations physiologiques bénéfiques. Dans notre étude, les participants ont réalisé 7 bains quotidiens de 90 minutes à 40 degrés Celsius, un protocole exigeant, quoique bien toléré. La faisabilité d'une telle approche à grande échelle demeure toutefois incertaine. De futures recherches devront donc identifier des stratégies d'exposition à la chaleur plus simples et plus accessibles afin de favoriser l'adaptation des personnes vieillissantes aux épisodes de chaleur extrême de plus en plus fréquents. C'était « Chaleur extrême », une découverte encourageante sur la capacité d'adaptation des aînés. Un texte de Daniel Gagnon et Thomas Deshaies paru le 25 juin 2026 dans La Conversation.
Gare à la prescription de testostérone. Un texte de Suzanne Colperon paru le 17 juillet 2026 dans La Presse. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, veut soumettre tous les militaires américains de 30 ans et plus, y compris les femmes, à un dépistage annuel de leur taux de testostérone. Ceux présentant un déficit pourraient, s'ils le souhaitent, recevoir un traitement hormonal substitutif. Un traitement qui comporte toutefois plusieurs risques. voici ce qu'il faut comprendre d'une mesure qui soulève autant de questions médicales que politiques. Pourquoi le Pentagone veut-il mesurer la testostérone des militaires? Selon Pete Hegseth, cette mesure permettra de s'assurer que les soldats disposent des capacités physiques nécessaires pour combattre sur un champ de bataille. Il s'agit de restaurer et d'optimiser vos capacités naturelles, affirme le chef du Pentagone. Pour Éric Sauvé, ancien officier des Forces armées canadiennes, cette décision s'inscrit dans la vision que Hegseth cherche à imposer aux Forces armées américaines. Il veut refaire les forces à son image, macho, viril, où les femmes et les noirs n'ont pas leur place. Il parle constamment de létalité et de virilité, dit-il. Est-ce que dépister systématiquement la testostérone est recommandé? Non. Il n'y a pas d'évidence que dépister systématiquement la testostérone basse soit utile, affirme le docteur Rémi Rabaza-Lorette, endocrinologue à l'Institut de recherche clinique de Montréal et au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM. Dans les bonnes pratiques cliniques, on ne dose pas la testostérone s'il n'y a pas de symptômes de manque de testostérone. Pourquoi est-il si difficile de diagnostiquer un manque de testostérone? Parce que les symptômes sont souvent peu spécifiques. La fatigue, par exemple, peut avoir une multitude de causes, explique Dr. Rabaza-Lorette. Chez un militaire, elle peut être liée à un entraînement intensif, au manque de sommeil, au stress ou à de nombreux autres facteurs. Même des symptômes plus évocateurs comme une dysfonction sexuelle peuvent avoir d'autres causes qu'une baisse de la testostérone. Les militaires sont-ils plus sujets à souffrir d'un déficit de testostérone? Possiblement. Le stress chronique, le manque de sommeil, les traumatismes crâniens répétés et les longues périodes d'entraînement peuvent contribuer à une diminution des taux de testostérone. Des recherches menées auprès des forces spéciales américaines ont également décrit un phénomène appelé « syndrome de l'opérateur » dans lequel certains militaires présentent davantage de troubles hormonaux après plusieurs années de service. Mais cela ne veut pas dire qu'il souffre d'un déficit nécessitant un traitement. On donne de la testostérone dans des cas limités. Comme endocrinologue, je vois beaucoup plus de gens à qui je dis que ça ne sert à rien, souligne le docteur Rabaza-Lorette. Ce traitement comporte-t-il des risques? Oui, et ils peuvent être importants. L'administration de testostérone peut interrompre la production de spermatozoïdes et ainsi compromettre la fertilité. Elle peut également augmenter le nombre de globules rouges, ce qui accroît le risque de caillot, d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus et d'embolie pulmonaire. Chez certaines personnes atteintes de certains cancers, elle pourrait également favoriser la progression de la maladie. Donner de la testostérone à quelqu'un sans avoir bien surveillé tout ça, ça va faire flamber le cancer, illustre le docteur Rabaza-Lorette. La testostérone est-elle populaire? Oui, aux États-Unis, elle est devenue très populaire auprès d'hommes cherchant notamment à augmenter leur masse musculaire. Selon le docteur Rabaza-Lorette, cette tendance est également perceptible au Québec. Alors que c'était exceptionnel il y a 10 ans, j'ai au moins 10% des hommes qui me demandent si on ne pourrait pas doser la testostérone. Dans bien des cas, ajoute-t-il, la fatigue ou la baisse d'énergie s'explique davantage par le mode de vie, le manque de sommeil, le stress ou l'obésité abdominale que par un déficit hormonal. Pourquoi les femmes sont-elles incluses? C'est l'un des aspects les plus étonnants de l'annonce du Pentagone. Les femmes produisent naturellement de la testostérone, mais dans des quantités de 10 à 20 fois inférieures à celles des hommes. Or, il n'existe actuellement aucun traitement à la testostérone approuvé par la Food and Drug Administration américaine pour les femmes. Le Pentagone n'a pas expliqué ce qui serait fait des résultats obtenus chez les militaires féminines. C'est une pensée extrêmement simpliste, surtout en endocrinologie. Quand on en manque, qu'on va la remplacer. Tout va bien, sujet suivant. C'est infiniment plus compliqué que ça, insiste le docteur Abasalorette. Il ajoute, « Je suis absolument ébahi qu'on puisse dire des bêtises de cette nature-là. » Cette décision était liée au débat sur les militaires transgenres? Oui, indirectement. Depuis son arrivée au Pentagone, Pete Hegseth a interdit le service militaire des personnes transgenres, remis en question la présence des femmes dans certaines unités de combat et multiplié les déclarations valorisant la virilité et la létalité des forces armées. Les critiques soulignent qu'il est paradoxal d'invoquer les difficultés liées aux traitements hormonaux pour justifier l'exclusion des militaires transgenres, tout en proposant maintenant un traitement hormonal à des militaires présentant un faible taux de testostérone. C'était « Gare à la prescription de testostérone », un texte de Suzanne Colperon, paru le 17 juillet 2026 dans la presse.
Mieux vivre avec les bouffées de chaleur. Un texte de Catherine Hanfield, paru le 8 juillet 2026 dans La Presse. Pour bien des femmes, l'été est synonyme de bouffées de chaleur. Comment les gérer? Entrevue avec la docteure Emily Brander, gynécologue obstétricienne au CHU Sainte-Justine, qui soigne aussi des femmes plus âgées. À quoi sont dues les bouffées de chaleur liées à la ménopause ou à la périménopause? À mes patientes, je l'explique comme un des symptômes du sevrage d'ostrogène. Pendant la périménopause, il nous reste de moins en moins de bons ovules et chaque fois qu'on ovule, de moins en moins d'ostrogène est produit. La durée de cette transition varie d'une personne à l'autre et certaines personnes sont plus sensibles également. Les changements dans les taux d'ostrogène se font sentir partout dans le corps. Cœur, cerveau, os, muscles, articulations, peau, digestion, utérus, ovaires. Dans le cerveau, des structures gèrent la régulation de la température. Et la cascade d'hormones change le thermostat. La zone de confort, celle dans laquelle le corps est capable de gérer la chaleur, devient plus mince. Est-ce que c'est pire l'été? Oui. En été, on dépasse plus rapidement cette mince région que le corps est capable de gérer. Avant de parler de médication, quels sont les meilleurs trucs pour gérer les bouffées de chaleur? On veut diminuer la température au cerveau le plus rapidement possible. On peut donc mettre des compresses d'eau froide sur le cou, sur le front, et là où passent de gros vaisseaux sanguins proches de la peau, comme l'aisselle ou l'aine. On peut aussi prendre une douche froide, évidemment. L'air devrait aussi pouvoir circuler, donc porter des vêtements qui respirent bien et qui ne retiennent pas la chaleur. Et si les bouffées surviennent pendant la nuit, quoi faire? Des femmes vont choisir des draps qui respirent, en coton par exemple. On peut aussi se couvrir par couches qu'on peut enlever au besoin. Des patientes me disent aussi qu'elles placent sous leur oreiller un sac de glace emballé dans un sac à glissière de type Ziploc. Et dès qu'elles ont une bouffée de chaleur, elles tournent l'oreiller pour se rafraîchir. On peut aussi avoir un ventilateur ou un air climatisé qu'on peut contrôler à l'aide d'une télécommande de son lit. En matière de traitement, maintenant, quelles sont les avancées? Est-ce qu'on soigne mieux les bouffées de chaleur qu'avant? Je pense que oui. Auparavant, on avait juste les oestrogènes et progestérone non bio-identiques, donc moins comme les hormones humaines. On a désormais plusieurs options, formulation et voie d'administration pour l'oestrogène, ainsi que de la progestérone bio-identique en comprimé. De plus, on a maintenant des molécules qui ne sont ni de l'oestrogène ni de la progestérone, mais qui touchent le récepteur qu'il faut, les modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes. On a aussi des traitements qui agissent comme la testostérone, la progestérone et l'oestrogène, et qui aident aussi avec la libido, tibolone. À quel moment faut-il consulter pour les bouffées de chaleur? Devrait-on les endurer jusqu'à un certain point? C'est une question personnelle à chacune. Une femme qui travaille à la télé, par exemple, pourrait trouver très difficile d'avoir une bouffée de chaleur de 5 minutes par jour. D'autres personnes disent « Mais non, je travaille dehors. Si j'ai chaud, je me mets à l'ombre, puis c'est correct. » Donc, ça dépend de l'impact des bouffées de chaleur, de leur fréquence, de leur durée, des conséquences sur le sommeil. Si votre qualité de vie en souffre, consultez. Peut-on apaiser les bouffées de chaleur en modifiant ses habitudes de vie? Sport, alimentation, sommeil, gestion du stress? Oui, il y a toujours une modification du style de vie avant chaque traitement, bien que la plupart de mes patientes l'ont déjà essayé avant de me consulter. Donc, gestion du stress, méditation, exercice, diminution de l'alcool. C'est aussi une bonne chose de contrôler son poids le plus possible pour éviter le diabète, la résistance à l'insuline et l'hypertension. Ça fait de soi une bonne candidate pour l'hormonothérapie. Combien d'années en moyenne les bouffées de chaleur durent-elles? Tout ça a une fin? Oui. Jusqu'à 80 % des femmes auront les symptômes primaires. Bouffées de chaleur, sueur nocturne, sécheresse vaginale, 2 ans avant et 2 ans après la ménopause. Mais évidemment, il y a des personnes hors de ça et d'autres symptômes, douleurs aux articulations, insomnie, brouillard cérébral, etc., vont souvent durer plus longtemps que ces 4 années entourant la ménopause. Mais pour la plupart des femmes, après 5 ans, les symptômes sont plus faciles à gérer. C'est rare que quelqu'un ait des bouffées de chaleur intenses 5 ans après la ménopause. C'était « Mieux vivre avec les bouffées de chaleur ». Un texte de Catherine Hanfield, paru le 8 juillet 2026 dans La Presse.
Les propriétaires réclament un observatoire québécois de l'habitation. Un texte de Justine Bouchard-Girard, paru le 15 juillet 2026 dans Le Devoir. Jugeant que les données sur l'habitation sont insuffisantes, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, CORPIQ, C-O-R-P-I-Q, propose la mise en place d'un observatoire sur le sujet. Des regroupements de locataires souhaitent aussi avoir plus de données, mais se demandent si une telle structure est nécessaire. Le Québec a besoin d'une instance dont le mandat serait de colliger des données fiables sur le logement pour mieux cerner les besoins réels de la population et guider les décisions tant publiques que privées, plaide la CORPIQ. Cet observatoire pourrait entre autres examiner l'évolution des besoins démographiques et les facteurs influençant le coût de l'habitation partout au Québec, affirme-t-on. On est dans un contexte électoral et on s'apprête à prendre des décisions qui vont engager des milliards de dollars pour l'habitation. souligne en entrevue le porte-parole du regroupement de propriétaires Éric Sanssouci. Les données compilées actuellement ne sont pas suffisantes pour comprendre les besoins des locataires et des propriétaires, dit-il, et ainsi prévenir une aggravation de la crise du logement. Benoît Rullier, coordonnateur du regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec, RCLALQ, partage ce dernier avis. Il ne comprend toutefois pas la nécessité de la mise en place d'un observatoire alors que le tribunal administratif du logement, TAL, TAL, a déjà l'obligation légale d'étudier la situation du logement au Québec et d'établir des statistiques. Ce n'est pas le rôle d'un tribunal d'être spécialiste de l'habitation, réplique Éric Sanssouci à cette affirmation, d'autant que le TAL est déjà débordé. Il faudrait plutôt confier cette part de son mandat à une autre instance, fait valoir le porte-parole de la Corpic. Une possible collaboration? Questionné pour savoir si le RCLALQ serait ouvert à travailler avec la Corpic, CORPIQ, pour la mise en place d'un tel observatoire, Jean-Christophe Bureau, organisateur communautaire au sein du regroupement de locataires, se veut prudent. On n'est pas du tout fermé à la collaboration. Si ça permet de loger plus de gens, on est favorable. C'est juste que la prémisse de la Corpic, c'est de favoriser les intérêts des propriétaires, lance-t-il. M. Bureau considère que dans le contexte de crise actuelle, un contexte de flambée faramineuse des logements, c'est impossible de concilier des intérêts qui visent à augmenter des profits et de loger plus de gens. On est pour le logement social, on est pour les services sociaux, pour l'accompagnement à l'itinérance, assure quant à lui Éric Sanssouci. On n'est pas ici en train de favoriser un intérêt plus qu'un autre. Louis Gaudreau, professeur en travail social à l'UQAM, est d'ailleurs d'avis que la mise en place d'un observatoire du logement pourrait être intéressante et permettre de lever le voile sur les différentes réalités des régions du Québec. Le seul problème en ce moment, c'est que la réponse aux besoins d'un logement est presque entièrement privatisée, souligne-t-il. On peut fournir des données, mais ce n'est quand même pas collectivement ou démocratiquement que les décisions d'investissement dans tel secteur ou telle région vont se prendre. Si ces statistiques serviront surtout à des acteurs privés, il estime qu'il s'agit tout de même d'une bonne idée dans la mesure où les groupes de pression et de recherche pourront aussi bénéficier de ces données. C'était « Les propriétaires réclament un observatoire québécois de l'habitation », un texte de Justine Bouchard-Girard paru le 15 juillet 2026 dans « Le Devoir ».